Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous, si vous nous retrouvez en direct dans Europe Soir, le journal dans quelques secondes. 19h10, la carte blanche de la philosophe Juliette Funès. 19h20, le club des idées. Comment soutenir nos éleveurs et nos producteurs de lait? Comment assurer aussi le renouvellement de générations? C'est important et l'enjeu est colossal car le lait, c'est une filière française d'excellence. On en parlera donc dans le cadre de notre grande semaine de l'agriculture et notamment à la rencontre de ceux qui fabriquent ce lait. D'abord le journal avec vous, Christophe Lamar. 19h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
C'est un homme qui a l'habitude de partir en montagne, c'est un chasseur, donc apte effectivement à vivre et à survivre dans un milieu hostile.
Toujours aucune trace du fugitif soupçonné d'avoir abattu deux hommes dans les Cévennes et comme l'explique le procureur ce soir, le meurtrier présumé connaît très bien le terrain.
Alors il y a ceux qui sont partis en week-end loin de Paris et ceux qui ont choisi de rester pour se faire vacciner. Ils ne sont pas tout seuls, le vaccinodrome de la Porte de Versailles ne désemplit pas.
C'est encore un tabou en France, une femme sur 10 a connu une fausse couche. Des femmes se mobilisent pour que ce drame soit mieux pris en compte.
Tesla dit finalement non au Bitcoin. Son PDG Elon Musk affirme que son groupe n'acceptera plus la crypto-monnaie comme moyen de payer, on vous dira pourquoi.
Le football avec la demi-finale de la Coupe de France, Rumilly-Vallières contre Monaco, le petit club amateur rêve d'exploit.
Anissa Dadi pour la météo. Anissa, toujours pas mal d'averses demain.
Oui, en tout cas en début de journée. Hein, l'ambiance est encore assez humide avec des averses sur les trois quarts du pays. Mais dans l'après-midi, petite éclaircie, ça se calme. Mais les températures, elles, restent toujours bien fraîches pour la saison. Plus de détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les recherches se poursuivent donc dans les Cévennes pour retrouver la trace de Valentin. Près de 350 policiers et gendarmes le traquent depuis bientôt trois jours dans une zone boisée d'une quinzaine de kilomètres carrés environ. Stéphane Frangy, vous êtes notre envoyé spécial sur place. Le procureur parle d'un homme qui connaît très bien le terrain et on en sait d'ailleurs encore un peu plus sur son profil.
Oui, le profil d'un solitaire passionné d'armes et notamment de tirs de précision. Lui qui rêvait d'être sniper, il possédait chez lui par exemple des sacs de sable comme ceux des militaires qui sont amenés à installer des camps de fortune à l'épreuve des balles. Eh bien, il n'est pas exclu qu'il se soit ainsi aménagé une base retranchée quelque part dans les bois. Le procureur de Nîmes, Éric Morel, est convaincu de faire face à un homme parfaitement entraîné à ce qui est en train de se passer.
C'est un homme apte à la survie en milieu hostile. C'est-à-dire que c'est un homme qui a l'habitude de partir en montagne, c'est un chasseur, donc apte effectivement à vivre et à survivre dans un milieu hostile, mais en même temps, ce n'est pas un adepte, en tout cas en l'état des investigations, de l'idéologie survivaliste, pas plus qu'un paramilitaire, comme c'était évoqué par l'un d'entre vous.
Voilà, mais son profil de solitaire aide en quelque sorte les recherches, puisqu'il est présenté comme une personne sans le moindre ami, qui ne passe ni ne reçoit que finalement très peu d'appels téléphoniques. Difficile d'imaginer ainsi qu'un complice ait pu l'extraire de la zone de recherche de 15 km² qui est actuellement sondée.
Stéphane Frangy, merci, en direct du Gard où les recherches donc se poursuivent pour retrouver ce fugitif.
En Gironde, un chauffard de 34 ans écope de 5 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Il avait tué un couple de motards au volant de sa voiture alors qu'il était ivre, sous cocaïne et roulait à 180 km/h sur une route départementale.
Pas de répit dans la campagne de vaccination. Le joli mois de mai, ses ponts et ses jours fériés ne doivent pas ralentir le rythme des injections. C'est en tout cas l'objectif du gouvernement. Message reçu 5/5 à Paris.
Eh bien oui, parce que les Parisiens qui ne sont pas partis prendre à l'occasion de ce week-end de l'Ascension en ont profité pour se faire vacciner. Le vaccinodrome de la Porte de Versailles était loin d'être désert cet après-midi et chose étonnante, Romain Houg, il y avait beaucoup de jeunes parmi les candidats.
Oui, et même des très jeunes hein, dans la file d'attente, moins de 20 ans pour certains. C'est le cas de Simon, 19 ans, tout juste vacciné. Il est sorti du centre tout sourire tout à l'heure et pour cause, il a dès hier soir réussi à réserver son créneau en ligne.
Je pense que c'est important de le faire pour tout le monde, pour moi aussi, pour ma famille, pour mes proches. Et puis comme ça, cet été, j'ai prévu de partir aussi avec mes amis. Donc ça fait plaisir.
Partir cet été en montrant patte blanche, voilà la principale motivation de bon nombre d'entre eux, mais pas toujours facile d'obtenir un rendez-vous. Alors Romain, 20 ans, prend son mal en patience.
J'ai essayé de prendre rendez-vous, il n'y avait aucun centre disponible. Là on m'a dit oui, apparemment il y aurait des doses disponibles en fin de journée, donc bon... Je tente le tout pour le tout. Voilà, c'est plus vite on sera vacciné, mieux. Plus vite on sera sorti de l'affaire. Voilà pourquoi je suis là.
Lisa aussi patiente devant le centre en espérant bénéficier des doses restantes en fin de journée. Pour elle, c'est tout simplement un acte citoyen.
Pour moi, c'est la moindre des choses d'aller se faire vacciner et qu'on s'en sorte un peu parce qu'au bout d'un an et demi, on en a vraiment très marre, même en tant qu'étudiant. Il y a un moment, il faut faire le geste et voilà. Et si nous, on le fait pas, qui va le faire?
Voilà, il n'y a donc pas de doute. Les jeunes sont bel et bien au rendez-vous de la vaccination. Ici, Porte de Versailles.
précision signée Romain Hougue. Alors, convaincre les Français de se faire vacciner, c'est une chose. Convaincre ceux qui ont droit de ne pas bouder AstraZeneca en est une autre. Et là, c'est loin d'être gagné.
1,5 million de doses attendent de trouver preneur chez les plus de 55 ans auxquels il est réservé, à tel point que de nombreux médecins généralistes se retrouvent avec des doses d'AstraZeneca sur les bras. Ils réclament ce soir un déploiement rapide des vaccins à ARN messager, ce qui a été annoncé pour le 24 mai en théorie.
Les femmes disent que c'est une douleur étouffée. 1 sur 10 a connu une fausse couche.
Et pourtant, il est encore difficile d'en parler, d'être comprise. En Nouvelle-Zélande, les femmes viennent d'obtenir un congé de 3 jours après une fausse couche ou l'accouchement d'un bébé mort-né. En France aussi, des femmes se mobilisent pour que la société le prenne en compte, Virginie Riva.
Oui, car si aux États-Unis, Michelle Obama a évoqué sa fausse couche dans ses mémoires et après elle, Meghan Markle, dans une interview au New York Times, en France, le sujet reste encore largement tabou pour la majorité des femmes, car c'est un épisode très douloureux, dur à raconter, souvent passé sous silence face à ses employeurs. Mathilde Lemel a vécu 4 fausses couches en 2 ans avant d'avoir sa fille. Elle a depuis créé un compte Instagram, mais presque rien, pour libérer la parole.
Je pleurais tout le temps, matin, midi, soir, la nuit. J'ai demandé au bout de la 3e si je pouvais avoir un suivi psy. On m'en a jamais proposé, en fait. Et quand on me l'a proposé, le psy que j'ai rencontré m'a dit que finalement, il s'occupait que des personnes dont la grossesse s'arrêtait après 22 semaines. Après, d'un point de vue de l'entourage, le discours est plutôt de dire c'est pas grave, il y en aura un autre, et du coup, de minimiser. Et en fait, il reste aucune place pour vivre vraiment son deuil.
Besoin de prévention, disent aussi celles qui se mobilisent, car mieux préparer les femmes saurait peut-être aussi mieux le vivre. Du côté de l'accompagnement par l'assurance maladie, en France, il est possible de bénéficier d'un arrêt maladie, mais un congé spécifique comme en Nouvelle-Zélande n'est pas à l'étude. L'entourage d'Adrien Taquet, secrétaire d'État aux familles, a conscience qu'il faut lever le tabou, mais en même temps qu'il faut préserver l'intimité de celles qui ne voudraient pas en parler à leur employeur.
Merci Virginie Riva. On ne sait pas s'il faut parler de coups de théâtre, mais c'est un nouveau rebondissement dans la course au régional en PACA.
Sophie Cluzel ne présentera pas de liste de La République En Marche. Elle avait pourtant assuré qu'elle serait la candidate de la majorité présidentielle, mais elle retire sa candidature. La secrétaire d'État annonce qu'elle soutiendra désormais la liste emmenée par Renaud Muselier, le président sortant Les Républicains.
Europe 1, Julien Bugier.
Allez, une petite pause et dans quelques secondes, on vous parle du patron de Tesla, Elon Musk, qui dit non finalement au Bitcoin.
Et puis la demi-finale de la Coupe de France, Rumi Valguerre, veuille y croire.
A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on vous parle donc d'Elon Musk qui fait encore des siennes. Le PDG de Tesla ne veut plus de Bitcoin.
Et non, il l'a dit sur Twitter. Curieuse volte-face du fondateur de Tesla qui disait exactement l'inverse il y a encore un mois. Cette fois, Elon Musk est catégorique. Il sera impossible de payer sa Tesla en Bitcoin. Clément Le Saffre, expliquez-nous ce brusque changement de pied.
C'est une illumination. En quelque sorte, Elon Musk s'est soudainement rendu compte hier que le Bitcoin a un impact négatif sur l'environnement. De fait, le processus de création des bitcoins, qu'on appelle le minage et qui consiste à faire tourner des fermes de milliers d'ordinateurs 24 heures sur 24, est très énergivore. On estime que les transactions en bitcoin consomment autant d'électricité à l'année que des pays comme la Suède ou l'Argentine. Problème dans le problème, c'est une électricité produite principalement à partir du charbon, l'énergie fossile la plus polluante.
Mais Clément, on sait depuis plusieurs années que le bitcoin consomme beaucoup d'énergie.
Oui, il y a quand même, il faut le dire, une certaine hypocrisie chez le milliardaire américain. Pour rappel, il vantait depuis des mois les mérites des crypto-monnaies, jouant même de son influence pour faire grimper les cours à coups de tweets enflammés. Son entreprise Tesla avait même acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin en février. Un investissement juteux dont Elon Musk a grandement bénéficié à titre personnel, avant donc d'ouvrir les yeux tardivement sur la réalité environnementale du Bitcoin. Il n'abandonne pas pour autant complètement sa lubie. Elon Musk précise que Tesla conservera ses bitcoins au chaud en attendant que le minage ait plus recours aux énergies renouvelables.
Mais vous savez ce qu'on dit, mieux vaut tard que jamais, mon
exactement,
cher Clément Le
Saffre. Si ça peut faire bouger les lignes.
Du service Éco d'Europe, merci à vous.
De l'énergie, ils vont en avoir besoin, mais ils ont aussi beaucoup de courage à revendre. Les amateurs de Rumilly-Valguerre face à Monaco ce soir en demi-finale de la Coupe de France de football. Julien Froment, ce n'est pas parce qu'ils sont censés être les plus petits qu'ils ne doivent pas y croire, on est bien d'accord?
Oui, exactement, d'autant plus qu'ils sont portés par, ils ont été portés plutôt il y a quelques minutes par une foule assez incroyable, les joueurs de Rumilly, une marée humaine, plusieurs centaines de supporters se sont amassés pour faire une haie d'honneur à grand renfort de klaxons, fumigènes et chants, bien sûr, en l'honneur du GFA Rumilly-Valguerre. Alors pas tout à fait dans le respect des gestes barrières, mais qu'importe pour le milieu de terrain Alexis Peugeot, accoudé à la fenêtre du minicar, tout comme ses coéquipiers, il a savouré chaque seconde.
C'est exceptionnel, toute cette ferveur, tous les gens qui nous soutiennent. ça peut que nous pousser à faire encore un plus gros match et se battre pour eux et pour toute cette belle région qui nous soutient pleinement.
On arrive à se concentrer là avec tout ça, ça quoi, ça vous galvanise plutôt ça?
Oui, on est dans notre match bien sûr, mais on profite aussi parce que voilà, ça reste exceptionnel, mais on sera là sur le terrain à l'heure.
Ouais, il a raison d'en profiter car c'est un moment rare pour ce club créé en 2018 d'une fusion entre Rumilly et Vallières, et puis aussi en profiter puisqu'hélas le match se disputera au Parc des Sports d'Annecy ce soir à huis clos. Pas les conditions idéales pour un club du National 2, l'équivalent de la 4e division, mais ils savent désormais qu'ils pourront compter sur le soutien de toute une ville et de toute une région et bien pour tenter de réaliser l'exploit ce soir face à Monaco.
Et donc votre pronostic, Julien Froment?
Que le meilleur gagne.
Voilà. Vous en sortez bien, comme toujours.
Ouais, exactement.
Merci Julien Froment du service des sports d'Europe 1.
Il tombe sur ses pattes comme un chat. Rumilly-Vallières, Monaco, coup d'envoi à 21h15, bien sûr. Match à huis clos, hein, Julien le disait, mais ce sera à suivre, bien sûr, à la radio sur Europe 1, en fil rouge. Et puis une dernière chose, Julien, la finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et Chelsea. Et voilà, elle aura lieu à Porto le 29 mai, avec du public dans le stade. La jauge est fixée à 12 000 spectateurs.
Bon, si vous avez des places, vous nous faites signe, Christophe Lamar. Merci. C'était le journal de Christophe Lamar. On vous retrouve demain, évidemment, à partir de 18h. La météo avec Anissa Dadi. Et la semaine se termine un petit peu comme elle avait commencé, quand même, avec un ciel menaçant.
Oui, c'est vrai que ce ciel gris, on l'a au-dessus de la tête depuis un petit moment maintenant. Ça commence à être long. Et bien, demain, nous aurons encore des nuages très présents et des averses sur les trois quarts du pays le matin. Au fil des heures, bonne nouvelle. Si vous nous écoutez en ce long week-end de l'Ascension, si vous êtes au bord des côtes de la Manche, le long de l'Atlantique ou au bord de la Méditerranée, eh bien là, vous aurez droit demain après-midi à de belles éclaircies. Profitez-en partout ailleurs. Eh bien, nous avons encore sur toutes les autres régions un ciel qui alterne entre nuages, averses et éclaircies. Dans le Grand Est et dans les Alpes, attention, demain après-midi, les orages éclatent. Côté température, on est en dessous des normales de saison avec 4 à 12 degrés demain matin et 12 à 22 degrés au meilleur de la journée. 12 la minimale pour Aurillac, 18 à Paris et 22 à Perpignan, Nîmes et Marseille.
Bien, merci beaucoup Anissa. On vous retrouve également demain avec des bonnes nouvelles, j'espère.
Croise
à partir
doigts.
De 18h. Vous restez avec nous évidemment 19h12. Dans quelques secondes, le débat du Club des Idées consacré ce soir à nos producteurs et nos éleveurs de lait. On en a besoin, vous comprendrez pourquoi, dans le cadre de notre grande semaine de l'agriculture. D'abord la carte blanche, Juliette Funès.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes un c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Et ce soir, c'est la philosophe Juliette Funès qui est donc à mes côtés. Bonsoir Julia.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir, vous avez décidé de revenir sur cette polémique de la suppléante voilée sur une affiche, sur un tract pour les départementales et les REM qui a suscité beaucoup de polémiques en Hérault cette semaine.
Oui, en effet. Et le premier piège de la pensée consisterait, à mon sens, à refuser une candidate voilée en faisant du voile un synonyme d'islamisation radicale. Le raisonnement selon lequel les islamistes radicaux défendent le voile, donc les porteuses de voile défendent l'islam radical, est bien trop simpliste et au fond trop idéologique. On ne peut pas décemment déduire d'un vêtement une idéologie, d'un bout de tissu des intentions politiques. Oui. Beaucoup de femmes musulmanes portent le voile par influence traditionnelle ou culturelle et le nier, c'est évidemment nier une partie de la réalité. Mais le deuxième piège consisterait à penser que ce vêtement est anodin et traduit jamais rien. Le voile est très souvent bien plus qu'un vêtement, c'est un signe politique, radical, sexiste dans bon nombre de cas et le nier, c'est aussi nier une partie de la réalité. Ce qui fait qu'on est face à un dilemme puisque les opposants systématique à la candidature d'une femme voilée tombe dans le premier piège. Le voile est un signe politique, donc il faut l'interdire. Et les tolérants systématiques à la candidature d'une femme voilée tombent dans le deuxième piège. Le voile n'a rien de politique, donc il faut l'autoriser.
Bien, on entend la difficulté de lecture que vous faites de cette polémique. Alors, comment sortir de cette impasse, de ce dilemme politique et moral aussi ?
Alors, en dépassant, à mon sens, ces deux impasses de pensée, puisqu'elles sont à la fois vraies et fausses, le voile est et n'est pas systématiquement politique. Et en inversant le raisonnement, en partant non pas de ce qu'est ou non le voile, point sur lequel il y aura toujours débat, mais en partant de ce qu'est la laïcité, principe sur lequel tout le monde devrait s'accorder. Ce principe, est-il nécessaire de le rappeler, est que l'État doit suspendre son jugement en matière religieuse. Ce n'est pas parce que l'État autorise une religion dans la société qu'il doit en promouvoir la représentation dans ses institutions. Or, une affiche électorale est-ce de l'espace public, au sein duquel les signes religieux sont tolérés, ou une représentation politique qui exclut tout signe religieux. En France, les affiches sont des outils politiques réglementés. Aussi, des hommes et des femmes en campagne, des hommes et des femmes politiques, autrement dit des représentants potentiels de l'État, doivent se garder, à mon sens, d'afficher des signes religieux ostentatoires sur des pancartes électorales qui sont des outils de communication politique, des rampes de lancement vers la représentation politique.
Alors, on entend vos différents arguments, Juliette Funès. Quelle est votre conclusion ?
En somme, ce n'est pas parce que le voile est politique ou pas qu'il doit figurer ou non sur une affiche électorale, mais c'est parce que l'affiche est un outil politique qu'elle se doit de neutraliser tout signe religieux. Vous voyez, Julien, qu'en renversant le raisonnement, on aboutit au résultat escompté. Ne pas mettre une femme dont l'idéologie religieuse s'avère, après enquête, opposée aux principes républicains, non pour des mauvaises raisons idéologiques, racistes ou vestimentaires, mais pour des raisons politiques, laïques et tout simplement républicaines.
Bien. Merci Juliette Funassi. On rappelle que le parti La République En Marche, le parti majoritaire, a rappelé le devoir de neutralité à ses candidats partout en France pour ces élections départementales et régionales, et donc à leurs suppléantes. Merci à vous.
Merci à vous, à bientôt.
Europe 1, Julien Bugier.
Dans quelques secondes, vous restez avec nous, 19h16, le Club des Idées. Grand débat ce soir sur la filière du lait. C'est important, c'est une filière française d'excellence. On va en parler jusqu'à 20h, à tout de suite. Oui, ce soir, c'est un Club des Idées consacré à l'agriculture que l'on vous propose dans le cadre de notre semaine spéciale sur Europe 1. Et ce soir, c'est à la filière du lait qu'on va donc s'intéresser en partenariat avec le Centre National Interprofessionnel de l'économie laitière. C'est l'un des fleurons de l'agriculture française, confronté, c'est vrai, à de nombreux défis depuis plusieurs années. Et le premier d'entre eux, eh bien, c'est le renouvellement de génération. Alors comment cette filière fait-elle pour attirer des jeunes ? Quelles sont ses perspectives et pourquoi aujourd'hui cette filière est en difficulté? On va donc en parler ce soir avec nos invités. Bonsoir Thierry Pouche.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, responsable du service études et prospectives aux chambres d'agriculture à Paris. On en parle également avec Valentin Werther. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez 19 ans, Valentin, vous êtes étudiant, vous terminez un BTS qui a pour objet, c'est la finalité de votre projet, vous voulez vous installer en production laitière. On va
Exactement.
Parler de tout ça parce que c'est intéressant, cette transmission aussi avec les générations plus anciennes. On en parlera également avec François Purseigle. Bonsoir. Vous êtes professeur de Bonsoir. Sociologie à l'École nationale supérieure agronomique à Toulouse et chercheur associé au CEVIPOF. Et puis j'accueille également Marc Jourdain, qui est éleveur. Vous avez 56 ans, monsieur. Vous êtes en Centre-Bretagne depuis un certain temps et vous arrêtez votre exploitation, a priori, dans 4 à 5 ans. C'est cela ?
Tout à fait, oui.
Bien, on en parlera et on vous fera échanger avec Valentin, qui a lui donc 19 ans et qui peut-être demain sera d'une certaine manière votre relève. Alors, quelques chiffres d'abord pour poser l'enjeu du débat. La France reste l'un des plus importants consommateurs de lait, avec plus de 45 litres consommés en moyenne chaque année par habitant, même si ce chiffre, c'est vrai, a tendance à reculer. Par exemple, en 2003, cette même consommation, elle était de 61 litres par an, ce qui représente une chute de 30% tout de même en 18 ans, et un marché aussi qui se transforme. Par exemple, aujourd'hui, 12% de la totalité des laits vendus en grande distribution, eh bien, c'est du lait bio. On commence peut-être un mot là-dessus, Thierry Pouche. Pourquoi d'abord ce recul continu de la consommation de lait en France ?
Il faut voir sans doute un impact des campagnes d'information sur la consommation de produits issus de l'élevage. Ça concerne les viandes et notamment la viande bovine qui diminue, mais on a aussi la consommation de lait qui diminue, même si pour le bio ça augmente. Et sur l'année 2020, le bio a tendance à se tasser en termes de consommation. Donc je pense que c'est aussi l'image qu'on a en termes de santé publique, de consommer trop de produits issus de l'élevage qui pose problème. Il y a sans doute aussi une question de pouvoir d'achat chez nos consommateurs. Oui. Mais j'ajouterais quand même que si notre consommation nationale baisse, il y a des relais à l'extérieur, hein, dans certains pays. La consommation mondiale de lait et de produits laitiers augmente de 2,5% par an.
Oui.
Donc il peut y avoir...
Grâce, tiré par les pays émergents notamment.
Alors tiré notamment par les pays émergents et en particulier par la Chine, notamment en poudre de lait et aussi maintenant un peu en produits frais. Mais nous avons nos voisins européens, puisque l'Italie est notre premier client en beurre, par exemple.
Oui.
Et l'Allemagne est aussi
en
premier client en fromage.
Des pays clients de la France, des exportations et du grand marché que ça représente évidemment pour nos éleveurs et nos producteurs. Mais quand même, je voudrais qu'on fasse un peu de sociologie et d'histoire, parce que c'est important aussi. En 1954, Pierre Mendès France, président du Conseil, impose un verre de lait sucré par jour à l'école. À l'époque, il ne pense pas qu'à la santé des enfants. C'est ce que nous expliquait l'historien Pierre Guillot, auteur de l'histoire sociale du lait. C'était dans un documentaire pour la chaîne France 5. Écoutez.
On pensait beaucoup à la santé de l'économie. On produisait du lait, il fallait le consommer. Donc on a poussé à la consommation pour trouver un débouché donc à ce qu'on appelait le fleuve blanc qui tendait à inonder quelque peu les campagnes françaises.
Fort intéressant, François Purseigle. On a incité les Français à boire du lait depuis bien longtemps. Les Américains avaient d'ailleurs fait pareil pour soutenir leur économie et leurs agriculteurs, et notamment les éleveurs laitiers, en disant bah voilà, le matin, il faut manger du lait, il faut manger des cornflakes, et il faut l'accompagner d'un grand bol de lait parce que c'est bon pour la santé. Ça n'est pas tout à fait exact.
Bah écoutez, je ne suis pas un sociologue de l'alimentation, mais de toute façon, on voit bien que le projet agricole faisait sens avec le projet de toute une nation. Ouais. C'était vrai pour le lait, mais c'était vrai pour d'autres productions. Donc, on avait un pays qui jouait la carte de la production et de la consommation de notre pays.
Bien. Alors, la filière laitière en France, elle est importante aujourd'hui, évidemment. Là encore, pardon de vous noyer sous les chiffres, mais ils sont importants. Nous sommes le deuxième producteur de lait en Europe. Ça représente 300 000 emplois sur le territoire, 54 000 fermes laitières livrant du lait de vache. La France exporte 6,6 milliards d'euros de produits laitiers, avec un cheptel laitier, Thierry Pouche, je parle sous votre contrôle, de 3,6 millions de vaches laitières, 1,2 million de brebis laitières et 850 000 chèvres. Pas mal pour un pays comme la France.
C'est une puissance laitière, comme on dit. C'est 13% de la production agricole totale de la France. Ça représente le troisième poste de notre balance commerciale.
Oui.
Et avec, évidemment, des débouchés, une fois que le lait a été collecté, des débouchés chez les transformateurs. Nous avons quand même des grandes entreprises qui sont tournées à l'international. Dans le top 25, on a quand même Lactalis, Danone, Sodiaal, Savencia. Donc ce sont des grandes entreprises qui peuvent s'implanter sur les marchés mondiaux.
Oui. Valentin, pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette grande aventure, qui n'est pas forcément évidente, on va en parler, de l'exploitation et de l'élevage laitier?
Alors tout d'abord, il faut savoir que c'est un métier de passion. Hein.
Oui.
Si on fait ça, c'est qu'on
comme
est passionné.
Comme tous les métiers de la Terre, d'ailleurs.
Comme tous les métiers de la Terre, exactement. Et en fait, comme tous les enfants, j'ai toujours voulu faire ça. Au début, quand on est petit, bon, on veut faire agriculteur, travailler avec les animaux, avec les vaches. Et puis, il y a des rencontres dans la vie qui font qu'on a envie de continuer.
Et c'était votre cas ? Vous avez rencontré quelqu'un qui vous a donné envie de continuer ?
Au début, c'était les amis à ma grand-mère, quand j'allais chez ma grand-mère, donc j'allais à la ferme voir les animaux, tout ça. Et puis en 2017, donc une rencontre avec un couple d'éleveurs laitiers,
oui.
Qui cherchaient, avec l'école, comme ça on était allés en visite sur leur exploitation, et puis ils cherchaient quelqu'un pour faire la traite. Et moi j'ai dit, oui, pourquoi pas ? Allez hop, donc j'ai saisi l'opportunité.
Manuel ou avec des machines ?
Avec la machine, la traite manuelle aujourd'hui.
Non, mais je sais pas, vous auriez pu essayer.
On n'en voit plus beaucoup.
C'est compliqué.
C'est vrai.
On aurait pu essayer.
Mais on essaye toujours, s'il y a besoin. Enfin bref.
Bien. Et c'est un métier de passion, vous le disiez, mais c'est un métier difficile aussi. Ça vous fait pas peur, ça, de bosser 70 heures par semaine, de pas avoir beaucoup de jours de congé, de pas avoir de vacances parfois ?
Non, mais il y a des solutions qui existent. C'est vrai que le métier d'éleveur, on le voit souvent comme réputé comme très difficile et contraignant. Mais aujourd'hui, il y a des solutions pour se faire remplacer. Aujourd'hui, le secteur agricole embauche quand même beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de salariés. Il existe des solutions, puis aussi pour rendre le travail moins pénible.
Marc Jourdain, vous êtes avec nous, vous entendez ce que dit évidemment le jeune Valentin Werther. Quand on a 56 ans et quand on a travaillé toute sa vie à produire du lait, comme vous le faites vous, avec vos bêtes, c'est toujours un métier de passion ou il y a un peu de lassitude quand même ?
Oui, la passion est toujours là.
Hein, la passion est toujours là.
Comme Valentin, je suis tombé dedans quand j'étais petit, quoi. Hein,
ouais.
Et la passion reste. Après, certaines choses commence à nous fatiguer, hein, on n'a plus la même énergie non plus, on n'a plus le même corps, faut être clair. Hein, et il y a un certain nombre de choses qui commencent à nous peser, mais ça reste un métier merveilleux, et j'ai toujours plaisir à exercer mon métier ici en Centre-Bretagne, dans une campagne verdoyante, vallonnée, avec beaucoup d'arbres, beaucoup de haies. Hein, et c'est toujours un plaisir de travailler, même s'il y a un certain nombre de choses qui font que c'est un petit peu plus difficile,
oui,
que quand j'ai commencé aujourd'hui. Quoi. Hein.
Bien, alors on va amorcer le débat, parce qu'il y a un moment où on va mettre les pieds dans le plat quand même. On va parler de la transmission, de la crise aussi des vocations d'une certaine manière. Je voudrais d'abord qu'on parle des prix. C'est un sujet qui fait beaucoup débat aujourd'hui dans l'actualité, depuis quelques années maintenant. François Pursec, peut-être vous pouvez en dire un mot pour commencer. Pourquoi aujourd'hui les éleveurs ne parviennent pas à vivre correctement de leur métier ?
Écoutez, je pense que ça, c'est plutôt mon collègue Thierry Pouche qui pourra répondre à cette question. Mais je pense qu'il y a un problème aussi d'organisation peut-être de certaines filières, de contractualisation. On voit que un certain nombre d'agriculteurs ont du mal à faire face à des aléas parce que, en fait, certains marchés, certaines filières sont moins sécurisées. Et c'est très variable, en fait, d'une filière et d'un type de produit à l'autre.
Oui. Thierry Pouge, vous partagez ce qui vient d'être dit, mais on va peut-être aller plus loin quand même. Il y a la grande distribution qui ne joue pas le jeu. Enfin, il y a un moment, il faut dire les choses aussi. On est là pour débattre, donc on dit les choses. Il y a la grande distribution qui ne joue pas forcément le jeu des prix. C'est ce que disent tous les éleveurs. Hein. J'invente rien,
oui,
là.
Oui. Hein, et il y a aussi la question un peu en amont de la grande distribution des transformateurs. Vous avez, selon les régions, des collecteurs et des transformateurs, donc on connaît maintenant les grands noms, Lactalis, Sodiaal, Danone, Saint-Vincia, qui n'ont pas forcément la même politique de prix pratiquée pour l'éleveur. Et donc, il faut savoir que si l'éleveur veut vivre de son travail, il faut aussi prendre en compte ses coûts de production.
Oui.
Et ses coûts de production sont différents selon qu'il est en système herbager ou selon qu'il est en système de grande plaine, avec la nécessité d'apporter des rations alimentaires à ces animaux qui peuvent coûter très cher, notamment en ce moment avec la flambée des prix des céréales ou du soja. Tout ça, ça rentre en ligne de compte dans les coûts de production. Donc si on ne tient pas compte dans les négociations sur les prix de ces coûts de production, et c'est bien d'ailleurs la difficulté qu'on a aujourd'hui avec l'application de la loi Egalim, hein, oui, qui a fait suite aux États généraux,
oui,
on prépare une deuxième loi.
Mieux rémunérer les agriculteurs et les éleveurs, mais ça ne fonctionne pas très bien.
Ça ne fonctionne pas très bien. Du coup, oui, on va préparer une deuxième loi à Egalim pour essayer de tenir compte de toutes ces contraintes.
Bien, voilà pour les enjeux du débat. On marque une pause, on se retrouve avec nos invités. On va parler de tout ça dans le détail. À tout de suite. Et on continue ce soir jusqu'à 20h donc de parler de l'avenir de la filière laitière. C'est vrai que nos éleveurs et nos agriculteurs rencontrent des difficultés. On va en parler donc jusqu'à 20h avec nos invités. Alors le problème des marges, il est capital. Des manifestations ont lieu régulièrement. Les agriculteurs manifestaient il y a encore peu, le 25 mars dernier par exemple, pour dénoncer les marges de la grande distribution. On en parlait à l'instant avec les invités, comme à Lyon. Alors parmi eux, Amael, c'est un jeune producteur laitier de 23 ans. Il était au micro Europe 1 de Jean-Luc Boujon.
Ras-le-bol, quoi. Ça fait 2 ans qu'il y a la loi Egalim qui est en place, on nous promet des prix et il n'y a rien qui suit, quoi. C'est la grande distribution, je pense, oui. Quand je vois un litre de lait qu'on nous achète à 36 centimes, qu'on retrouve à plus d'un euro en grande surface, la marge, elle est énorme, quoi.
Combien de centimes il vous faudrait pour être bien ?
À 40 centimes, on s'en sortirait bien, quoi.
Marc Jourdan, vous êtes donc éleveur en Centre-Bretagne. Vous êtes plutôt en fin de carrière, puisque vous dites que vous voulez arrêter d'ici 4-5 ans. Vous avez 56 ans. Votre réaction à ce qu'on vient d'entendre, comment se fait-il qu'aujourd'hui vous n'êtes pas payé le prix juste ?
Pourquoi on n'est pas payé le prix juste? Je pense qu'il y a un rapport de force qui est totalement déséquilibré entre la grande distribution et le reste de la filière. Il y a certainement certainement une opacité dans une partie de la filière qui fait que on est le dernier maillon et on est le maillon qui trinque. Quand ça va mal, c'est nous qui trinquons. Et quand ça va bien, on a du mal à vraiment en profiter, quoi.
Mais pourtant, vous êtes le maillon essentiel.
Ouais, mais malheureusement, on n'est pas suffisamment organisé pour pouvoir se défendre. En 2016, ça a été mal pour nous. J'ai fini l'année avec zéro de résultat.
Hein. Zéro de résultat.
Zéro de résultat. J'avais rien.
Combien versez, si ça n'est pas trop indiscret, pour que chacun comprenne?
C'est pas indiscret. Il y a des bonnes années, il y a des moins bonnes années. J'ai 4 enfants qui sont maintenant, qui ont entre 20 et 25 ans. Donc, ils ont été étudiants avant d'être autonomes. Hein. Donc, on a eu besoin d'environ 4000 euros par mois pour faire vivre tout ce monde-là. Hein, on a réussi à les prélever, mais en étant obligé de reporter en 2016, on a dû reporter des grosses échéances. Il y a des échéances qu'on n'a pas honorées à la banque et qu'on a décalées et qu'on paiera plus tard, quoi. Ça, c'est totalement normal. Et les bonnes années, on s'en sort tout juste et on paye les 4000 euros. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est très content de notre métier, mais c'est vrai que ce manque de rémunération, il est agaçant. Et le ras-le-bol de l'auditeur du reportage précédent, je le comprends tout à fait, et je le partage.
Oui.
Hein, mon père, il y a 40 ans, vendait du lait à 2 francs du litre.
2 francs du lait, 2 francs du litre.
2 francs du litre, ça fait 30 centimes. Hein. Aujourd'hui, je vends du lait à 34 centimes.
Oui.
Hein, à peine 15% de plus que ce que mon père faisait il y a 40 ans.
Ça veut dire que 34 centimes, ça ne couvre pas le coût de l'exploitation pour produire ce même litre de lait?
Aujourd'hui, je couvre mes coûts parce que je suis dans un système très herbagé. Hein. J'ai la chance d'être dans une région où l'herbe pousse bien
et l'herbe
coûte moins cher que le reste. J'ai pas besoin d'en racheter. Ouais. Je produis moi-même et l'herbe est un aliment complet pour les vaches et c'est l'aliment complet pour les vaches qui coûte le moins cher. Hein.
Donc j'ai la chance d'avoir beaucoup d'herbes, d'avoir une exploitation qui permet aussi de faire pâturer mes vaches, parce que j'ai pas de grande route à faire traverser les vaches. Donc je m'en sors bien comme ça. Oui. Mais j'en ai quelque part le ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de serrer les boulons pour m'en sortir et de pas en profiter.
Bien. Vous restez avec nous, François Pursègle, évidemment. Vous continuez à témoigner au micro d'Europe Soir. Valentin Werther, 19 ans, vous terminez votre BTS, oui. Vous avez le projet de vous installer en production laitière. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous réagissez?
Qu'est-ce que ça nous inspire, ça? On espère que ça ira mieux, de toute façon, quand on...
Parce que
au début...
êtes en train de vous destiner à une profession... qui est votre passion, vous le disiez tout à l'heure, mais dans
oui,
laquelle vous n'êtes pas sûr de gagner votre vie correctement.
Oui, mais les études ont pour objectif aussi de trouver d'autres solutions pour pallier à ce prix du lait qui est pas assez élevé, il faut le dire. Donc avec à travers la vente directe, la transformation, et puis comment produire du lait à moins cher aussi. On compare différents systèmes et après on adapte son exploitation au système... en fonction de son parcellaire, de l'historique de l'exploitation aussi, et de ses conditions climatiques.
C'est des questions auxquelles vous avez déjà réfléchi tout ça ?
Ah oui.
Ouais.
Oui, oui.
Et le type d'exploitation aussi ? Plutôt conventionnel, plutôt bio, plutôt produit dérivé ?
J'ai pour projet donc une exploitation en bio,
oui.
Avec de la vente directe.
De la vente directe ?
Oui.
Uniquement ?
Non, pas uniquement, non, avec une partie vendue à la laiterie, puis une autre partie à la vente directe, parce que c'est compliqué de faire la vente directe uniquement.
Ouais, et d'en vivre, essentiellement. Thierry Pouche, comment on explique tout ça? Parce qu'il n'est pas normal que nos éleveurs n'arrivent pas à vivre de leur exploitation. Il y a un chiffre qui a fait bondir aussi tous les éleveurs de France. Le leader français, Lactel, propriété du géant Lactalis, qui a largement profité de la hausse de consommation du lait, parce que pendant la crise sanitaire, les Français ont bu plus de lait qu'ils n'en buvaient par le passé. 11 millions de litres vendus de plus qu'en 2019 pour Lactalis. Ça fait bondir, par exemple, des exploitants qui ne comprennent pas qu'eux n'ont pas les bénéfices de cette hausse de consommation. Ça veut dire que Lactalis vole les éleveurs?
C'est comme l'a expliqué l'éleveur de la région Bretagne, il y a un rapport de force. Vous avez,
qui est défavorable, visiblement.
Qui est défavorable, mais ça, c'est une règle en économie. Vous avez 85 000 exploitants laitiers aujourd'hui. Vous avez à peu près 400 transformateurs et 4 centrales d'achat. Donc, quand vous êtes moins nombreux, vous vous entendez plus facilement sur les prix et vous faites pression, évidemment. C'est pour ça qu'il y avait eu des avancées quand même pour que les éleveurs laitiers puissent constituer des organisations de producteurs de façon à essayer d'établir un prix qui puisse être négocié de façon beaucoup plus favorable pour eux. Et en plus, il y a eu dans la loi Egalim une avancée, c'est l'inversion de la formation du prix. C'est-à-dire que ce n'était plus le transformateur ou le distributeur qui fixait les prix, mais c'était l'éleveur qui pouvait proposer son prix. La difficulté en 2020, c'est qu'il y a eu une baisse du revenu des éleveurs laitiers. Alors c'est variable selon le type d'élevage, mais on est à peu près sur un revenu en moyenne qui est compris entre 25 000 et 32 500 euros, ce qui n'est pas énorme, parce qu'il faut tenir compte des charges qui, elles, ont considérablement augmenté l'année dernière. Il y a eu des sécheresses, donc il a fallu acheter plus cher les fourrages pour ceux qui en achètent. Et il y a eu un redressement de l'énergie aussi, il faut bien chauffer les bâtiments, etc. Donc on est aujourd'hui dans une situation un petit peu compliquée pour ces éleveurs laitiers. C'est pour ça qu'on entend évidemment un certain nombre de critiques et de revendications
mais
qui, d'une certaine manière...
Est-ce qu'il n'y a pas le rôle du consommateur aussi là-dedans qui veut toujours des prix plus bas? Parce que c'est la raison pour laquelle il y a une guerre des prix dans la grande distribution et dans les grandes enseignes de marques de produits laitiers, Lactalis, mais il n'y a pas que Lactalis, qui se livre une guerre des prix au profit du consommateur, parce que le consommateur, dit-on, d'ailleurs je ne suis pas sûr que ça soit exact, mais dit-on, veut toujours des prix plus bas. Alors il y a des marques qui existent quand même, qui proposent le juste prix, qui est le patron, c'est qui le patron, par exemple.
Absolument.
Une marque bien connue qui a commencé par le lait et qui fait d'autres produits, il y en a d'autres, et il y a des marques coopératives aussi. Est-ce que ça c'est une solution qui peut permettre aux éleveurs à terme de s'en sortir un peu mieux?
Ça peut être une solution de diversifier un peu ses débouchés. Je voudrais aussi rappeler que par rapport à la période de la sortie des quotas laitiers en 2015, puisque l'Union européenne a abrogé ses quotas laitiers, on a connu quand même 4 ans de crise où là, il y avait des politiques de prix qui étaient plutôt orientées déflationnistes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on se faisait des guerres de prix entre les transformateurs et les distributeurs qui étaient préjudiciables pour le producteur. Aujourd'hui, on sait que les consommateurs sont prêts à payer un peu plus cher leurs produits alimentaires pour soutenir leurs agriculteurs. La difficulté, c'est qu'il faut que le pouvoir d'achat de ces consommateurs suive. Mmh. Et c'est une chaîne, d'une certaine façon, de logique économique. Si vous avez un pouvoir d'achat, vous pouvez vous offrir et payer plus cher des produits alimentaires et des produits laitiers en particulier.
10 centimes de plus pour un litre de lait, ça ne changerait pas quand même énormément l'addition pour le consommateur au bout du bout, Valentin Werther.
Oui, c'est sûr. Et puis, il faudrait peut-être aussi sensibiliser le consommateur à comment est-ce qu'on fait de l'agriculture, d'où vient le lait, comment est-ce qu'on le produit, les savoir-faire, il faut mettre en avant nos savoir-faire. Et plus le consommateur sera sensibilisé, et plus il voudra acheter et mettre le prix.
Oui. François Purseigle, professeur de sociologie à l'École nationale supérieure agronomique à Toulouse. Vous êtes aussi chercheur associé, je le rappelle, au CEVIPOF. Les quotas laitiers, la suppression des quotas laitiers, ça a été une erreur, ça ? Allô, allô ? Est-ce que François Purseigle est toujours avec nous ? François Purseigle nous a quittés. Ben, c'est pas grave, on va tâcher de le rappeler, puis on le retrouvera tout à l'heure. Thierry Pouche, même question. Ça a été une bêtise, ça, la suppression des quotas laitiers ?
Je ne sais pas si on peut qualifier ça de bêtise. En tout cas, au sein de l'Union européenne, il y avait un certain nombre d'États membres qui souhaitaient l'abrogation de ces quotas laitiers pour pouvoir produire davantage et écouler davantage leur lait et leurs produits laitiers, en particulier sur les marchés internationaux, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette demande mondiale, elle augmente tendanciellement.
Oui.
Donc, des pays comme l'Irlande, les Pays-Bas, le Danemark et même l'Allemagne étaient plutôt favorables à la suppression des quotas laitiers, alors que la France était opposée, paradoxalement elle était opposée à l'instauration des quotas laitiers, historiquement d'ailleurs, mais elle était opposée à cette suppression des quotas laitiers. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en abrogeant ces quotas laitiers, on a libéré la production en quelque sorte dans les pays d'Europe du Nord, et c'est arrivé à un moment où la demande mondiale se tassait justement. Et donc on a eu un déséquilibre très important entre l'offre et la demande qui s'est répercutée sur le prix qui s'est écroulé. Là, on est aux alentours de 345 euros la tonne en 2020 en moyenne. On était descendu à 270 pendant la crise après la suppression des quotas laitiers.
Alors, il y a un autre sujet dont on voulait évidemment parler très largement ce soir. La transmission de ces exploitations, parce que le nombre aujourd'hui d'éleveurs a considérablement baissé par rapport à il y a quelques années. Je vous propose d'abord d'écouter ce court résumé par notre journaliste Virginie Salmen.
Il y a 4 fois moins d'agriculteurs en France que dans les années 80. À l'époque, ils représentaient 7% des emplois du pays, c'est désormais seulement 1,5%. Et la profession se masculinise à grande vitesse, 73% d'hommes, plus 12 points en 40 ans. Les céréaliers, éleveurs, maraîchers, viticulteurs français sont une population vieillissante. Ils sont 1 sur 2 à avoir plus de 50 ans, pour un rythme de travail beaucoup plus soutenu que la plupart des Français, 55 heures par semaine contre 37 heures en moyenne, avec un nombre réduit de congés.
Alors, François Purseigle, je crois qu'on vous a retrouvé, professeur de sociologie à l'École nationale supérieure agronomique. Bienvenue à nouveau. Pourquoi il y a moins d'agriculteurs aujourd'hui et moins d'éleveurs comment on l'explique, ça ?
On a beaucoup de porteurs de projets en agriculture. On a à peu près 20 000 porteurs de projets dans ce qu'on appelle les points accueil-installation. Des porteurs de projets qui ont des projets de création d'activités, pas forcément de reprise d'exploitation telles qu'elles sont. En élevage tout particulièrement, on a des modes d'organisation de la production qui ne correspondent pas forcément non plus aux attentes de ces porteurs de projets. Et on a aujourd'hui parfois une installation qui va pas de soi dans certaines familles. La plupart des enfants d'agriculteurs sont happés par de nouvelles formes de mobilité sociale plus fortes que dans le passé. On a des situations de familiales qui sont de plus en plus complexes également.
Est-ce que la mécanisation, ça a joué aussi un rôle dans cette chute du nombre d'agriculteurs ?
Alors, sur le plan tendanciel, au niveau national, peut-être, sur un train relativement long, mais pas que. L'agriculture, c'est aussi un choix, et c'est un choix qui doit correspondre aussi à de nouvelles attentes. On n'a pas forcément joué la carte de la mutualisation des outils. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les agriculteurs apprennent peut-être davantage à déléguer certaines tâches pour pouvoir assumer un certain nombre de contraintes. Il y a quand même de moins en moins d'actifs familiaux des exploitations agricoles. Et puis ce que je voulais dire, c'est que la résilience du modèle familial, qui a souvent été glorifié, reposait sur des bricolages familiaux, hein, des non-prélèvements ou organisationnels. Les parents retraités continuaient à travailler quand même sur des exploitations. Et tout ça, ça ne va plus de soi aujourd'hui. Donc ça rend beaucoup plus compliqué les choses pour ceux qui décident de rester. Et puis en plus, on a notamment des éleveurs qui sont assignés parfois à des positions et qui sont regardés différemment d'hier. Et donc la désignation d'un successeur ne suffit pas. Hein. On a une charge symbolique qui est lourde à assumer parfois.
Marc Jourdain, vous avez un successeur, vous, pour votre exploitation ?
Aujourd'hui, c'est pas clair. J'ai deux fils qui sont potentiellement intéressés, qui terminent leurs études, qui vont aller travailler à l'extérieur dans un premier temps et qui prendront leur décision dans 3 ou 4 ans quand je déciderai d'arrêter. Oui. C'est à eux de décider, c'est pas à moi de décider. Hein. Mmh. Donc il y a deux solutions. Soit c'est l'un de mes enfants qui continuera, soit ce sera la vente de la ferme. Hein.
Mmh. Oui. Ça vous attriste, la perspective que vos enfants ne reprennent pas l'exploitation, si
oui,
jamais
oui
c'est le cas?
Oui et non, mon père me disait déjà « sois pas agriculteur hein. ». Donc c'était il y a 30 ans.
Vous l'avez bien écouté,
dites-moi. Ouais. Mais j'ai pas commencé par ça, hein. J'ai commencé par être ingénieur technico-commercial pendant 7 ans avant de revenir à l'agriculture. Et je pense aussi que c'est important qu'ils aillent voir un petit peu aussi ailleurs pour avoir une autre façon de voir les choses. Mmh. Hein. Après, oui, je serais à la fois content de continuer un petit peu avec l'un de mes enfants. Et puis, de notre côté, s'ils n'ont pas envie, il ne faut surtout pas qu'ils viennent.
Oui. Hein. Alors Thierry Pouche, il y a quand même un chiffre hein, qui ne trompe pas. L'âge moyen aujourd'hui des agriculteurs, et c'est pareil pour les éleveurs, c'est à peu près 52 ans. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de départs à la retraite dans les années qui viennent et pas forcément de jeunes. Comme Valentin qui nous accompagne ce soir pour reprendre les exploitations.
Sur la moyenne nationale, on est à un taux de remplacement de 70%. Dans l'élevage laitier, on est à 50%. Donc on est à peu près à 1 sur 2. Donc c'est un peu moins que la moyenne nationale.
Ça peut poser un problème de production française à un moment ?
Alors, pas forcément, parce que justement, on avait au début des années 2000 130 000 exploitants laitiers. Mmh. On en est à 85 000 aujourd'hui, donc on est sur moins 2,8% par an. Mais malheureusement, on constate quand même un maintien de la production, ce qui veut dire que la productivité dans le secteur laitier a augmenté de 50% en 10 ans.
Ouais.
Donc c'est pas forcément, il n'y a pas forcément d'impact sur la production quand il y a moins d'éleveurs laitiers.
Le cheptel moyen d'une exploitation, c'est quoi ?
Le cheptel moyen d'une exploitation, on est sur 66 vaches à peu près.
Valentin ?
Oui, sur 60 vaches, ouais, c'est ça.
60 vaches ? Et sur une production de lait qui...
En moyenne, c'est 6800 litres par an.
Bien. Alors, il y a quand même un élément conjoncturel qui a relancé, semble-t-il, certaines vocations au niveau local. C'est la crise du Covid. Mathieu Bock, l'un de nos journalistes, a rencontré Victor, 30 ans, qui a repris l'exploitation de son père. Alors, si le métier traverse une période difficile, la crise du Covid, pour lui, en tout cas, a renforcé sa vocation.
D'un seul coup, le jour où on a dit « c'est confinement, tout le monde reste à la maison et pas de déplacement interrégion, etc. » Dans ces moments-là, on se réfugie sur des valeurs sûres. Cette valeur sûre-là, on s'est rendu compte que c'était l'agriculture de proximité, les marchés, etc. Et en fait, moi je me suis dit personnellement, on a raison d'être fier de notre métier, on a raison de pas compter nos heures et d'aimer notre boulot parce que finalement, en période de crise, les gens nous le rendent bien.
Voilà, c'est plutôt encourageant ça.
Oui, on l'a vu lors du premier confinement. Hein. J'ai passé mon premier confinement à la ferme du coup. Hein. Et les gens chez qui je suis ont un magasin à la ferme. Le nombre de clients a explosé durant cette période du premier confinement.
Ça c'est aussi salutaire parce qu'on parle beaucoup du clivage qu'il peut y avoir parfois entre les gens des villes et puis les gens des campagnes. Oui. Ce grand malentendu entre les urbains et nos agriculteurs.
Et ben là, les gens ont mis
tout un tas de problèmes. Et là, on a le sentiment qu'il y a un amour retrouvé entre ces deux France.
Mais les gens ont pris le temps de retrouver un intérêt à ce qu'ils mangeaient, à comment ils cuisinaient. Ils ont pris le temps de discuter avec leurs producteurs et de remettre l'alimentation à la place qu'elle devrait être.
Et puis surtout, l'alimentation locale, c'est ça aussi. Vous parliez tout à l'heure de circuits courts. Moi, je me souviens, il y a 15 ans, ces sujets-là étaient périphériques. Aujourd'hui, ça s'est imposé dans l'agriculture au quotidien, entre les agriculteurs, les Français, et puis la volonté de vouloir consommer le plus proche de chez soi. Thierry Pouche, ça participe aussi, ça, à valoriser le métier ?
Ça participe à la valorisation du métier, à son attractivité. Mais il faut aussi tenir compte d'autres paramètres, parce que ça peut être un levier, mais qui peut être en contrepartie, contrebalancé par l'image qu'on a de l'éleveur jusqu'à la crise sanitaire, oui. L'accès au foncier, la reprise du cheptel, le financement, à quelles conditions le jeune qui va s'installer va financer ses investissements. Il ne faut pas oublier quand même que l'endettement à moyen et long terme des éleveurs laitiers, il y en a 36%, et ce qui fait que 32% d'entre eux ont des trésoreries négatives. Donc, si vous voulez, l'appel de la société, ça peut être un levier absolument considérable et formidable, mais il faut aussi tenir compte des autres paramètres, parce qu'il y a aussi la concurrence pour s'installer, oui. La course a une certaine forme d'agrandissement aussi. Donc voilà, moi je crois qu'il faut aussi ajouter au-delà de la consommation locale, qui est un levier très important, c'est aussi l'image que nos produits laitiers ont à l'étranger. Ça, c'est aussi un levier considérable qu'il faut continuer à exploiter, que ce soit en fromage, en produits frais, en beurre, etc.
Ça représente un gros levier de rendement et de revenus pour les éleveurs français, l'export ?
Alors, on retombe sur le même problème du partage de la valeur ajoutée. Il faut voir combien, à travers l'exportation, revient à l'agriculteur. Ça, ce sont des exercices
statistiques. Oui, parce que ça passe évidemment par des centrales, on le rappelle à nos auditeurs. Voilà, et puis après, c'est pas l'éleveur qui vend en direct aux clients chinois, par exemple, ou aux centrales d'achat chinoises. François Purcell, vous êtes toujours avec nous. Cette préoccupation financière, comment peut-elle se résoudre pour les éleveurs? On a l'impression que les éleveurs sont pris en tenaille entre, d'un côté, les coûts d'exploitation et de production, qui sont des coûts fixes, qui sont complètement difficilement compressibles, et puis de l'autre, une grande distribution et des grandes enseignes qui font pression. Enfin, on a l'impression qu'on n'a pas bougé depuis 20 ans.
Écoutez, on a parfois dans certains secteurs un petit peu bougé, mais c'est vrai qu'il y a des besoins peut-être en capitaux externes aussi pour conforter la situation économique et capitalistique de certaines exploitations. Ce qui a été dit est très juste. Une fois qu'on est rentré dans les exploitations, vous savez, pour la plupart des jeunes qui sont installés, au moment où le cédant va partir définitivement, il faut rembourser des comptes associés souvent au montant relativement élevé. Donc il va falloir peut-être imaginer de nouvelles modalités d'accompagnement financier pour conforter la situation de ces exploitations. Oui. Et puis les circuits courts, de toute façon, ne vont pas tout résoudre non plus, parce qu'il y a des problèmes d'organisation du travail. Il faut que certains puissent le faire aussi. Hein. Il s'agit pas de... Vous savez, les agriculteurs sont de moins en moins nombreux dans leurs exploitations. Hein. Il y a de moins en moins d'actifs familiaux, je l'ai dit. Et il faut quand même que l'exploitant puisse se libérer du temps pour assurer aussi les livraisons. Donc c'est pas si simple que ça. Et puis... Voilà, les consommateurs ont été peut-être au rendez-vous lors de la première période du confinement. Le seront-ils demain au rendez-vous? Voilà, c'est une question qui se pose.
Alors, il nous reste une petite minute, Marc Jourdan. Je voudrais simplement, pour terminer, vous tirer un grand coup de chapeau, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui accepteraient de travailler pour quasiment rien. Voilà, si on n'était pas payé, je ne suis pas sûr qu'on viendrait au bureau le matin ou qu'on irait à l'usine. Donc immense coup de chapeau pour ce que vous faites.
J'ai fait un petit calcul par rapport aux heures de travail qu'on fait. Hein. On a à peine le SMIC. Hein.
Vous avez à peine le SMIC.
À peine le SMIC. Hein. Heureusement, on fait beaucoup d'heures, donc ça va. Hein.
Et vous gardez la foi. Bravo à vous. Merci, merci Marc Jourdan. Merci Valentin Werther.
Merci
vous
à vous.
Plein de choses pour la suite alors.
Oui.
Quand est-ce qu'on pourra boire du lait made in Werther?
Dans 5 ans, j'espère.
Dans 5 ans, vous reviendrez nous voir.
Pas de soucis.
On va vous suivre, c'est promis.
Super,
bonne
merci beaucoup.
À vous, bonne suite. Merci infiniment Thierry Pouche. Merci à mes invités. On marque une pause, on se retrouve dans un instant avec le jour où, les archives évidemment. On vous racontera de ce jour où le pape Jean-Paul II a été victime d'un attentat. A tout de suite. Oui, avec la suite du Club des idées, les archives d'Europe Soir. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
C'est hier que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Yes, we can.
Bonsoir, Laure d'Autriche.
Bonsoir.
Alors, avec vous ce soir, plongé au cœur des archives d'Europe Soir de mai 1981, non pas pour parler de l'élection de François Mitterrand, mais de ce 13 mai 1981. Un homme tentait d'assassiner le pape Jean-Paul II.
Oui, et sur la place Saint-Pierre à Rome, l'endroit exact de la tentative d'assassinat est indiqué aujourd'hui sur le pavé par une petite plaque blanche, un petit espace à droite sur cette immense place du Vatican. Et effectivement, alors que Jean-Paul II circule au milieu des 20 000 fidèles à l'intérieur l'intérieur de sa Jeep, la Papa Mobile. On lui tire dessus ce 13 mai 81. Une première balle le touche à l'abdomen, une deuxième balle effleure son coude et blesse deux personnes dans la foule. Un jésuite présent sur place raconte la scène au micro d'Europe 1 quelques heures plus tard.
Il s'est écroulé, il est tombé dans les bras de son secrétaire et immédiatement le chauffeur de la Jeep à toute vitesse l'a emmené vers l'intérieur du Vatican, derrière laquelle se trouve en permanence une ambulance de la Croix-Rouge qui à ce moment-là a transféré le pape à l'hôpital Gemelli.
Alors le tireur est ensuite interpellé sur place. Directement, on apprend qu'il s'agit d'un certain Mehmet Ali Aksa.
Oui, l'homme a été plaqué au sol par une religieuse, puis emmené. C'est un homme de 23 ans, Mehmet Ali Aksa, membre d'une organisation islamiste et nationaliste turque. Un homme déjà recherché pour assassinat en Turquie. Deux mois plus tard, son procès commence. Procès que suit alors Alexandre Fonti pour Europe 1, qui décrit un Mehmet Ali Aksa provocateur.
Parlant derrière les vitres d'une cage à l'épreuve des balles, Ali Aksa, très calme, sûr de lui, persuasif, il reconnaît absolument avoir voulu assassiner le pape Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre de Rome il y a deux mois. Toujours sur le même registre, Ali Aksa, qui est au choix un provocateur ou quelqu'un de totalement inconscient, a dénoncé vigoureusement aujourd'hui à deux reprises les conditions de détention dans les prisons italiennes, allant même jusqu'à expliquer « c'est pire qu'au Moyen-Âge ». D'ailleurs, regardez-moi, on voit que j'ai été maltraité.
Et l'homme sera condamné à la prison à vie, puis finalement libéré en 2006.
Mais avant cela, il y a l'image particulièrement forte de sa rencontre avec Jean-Paul II en décembre 83. Le pape venant offrir son pardon à celui qui a tenté de l'assassiner.
Oui, on se souvient de cette image très bien. En prison, Jean-Paul II était venu le voir cet homme dans sa cellule. Ils ont parlé ensemble pendant 20 minutes avec à la fin cette poignée de main entre les deux hommes qui évidemment avaient marqué les esprits.
Mehmet Ali Aksa, quel regard porte-t-il aujourd'hui d'ailleurs sur son geste?
Alors, je l'avais rencontré pour Europe 1 en 2014 en Turquie, à Istanbul, et c'était étrange. Il m'avait donné rendez-vous au dernier étage d'un hôtel. Ces hommes de sécurité m'ont emmené jusqu'à lui, et là apparaît cet homme qui avait 56 ans, habillé en costume noir, lunettes noires, un homme qui dans ses réponses parle un peu en anglais, un peu en italien, un peu en turc, quelqu'un qui donne l'impression d'être un peu fou, il faut le dire. Et il m'a expliqué qu'il n'était pas maître de lui-même lorsqu'il a tenté d'assassiner Jean-Paul II ce jour de 81.
Quand je repense à mon geste en 1981, pourquoi j'ai tiré sur Jean-Paul II, pourquoi j'ai voulu le tuer, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu, ce n'était pas moi. Les Italiens ont tous dit que je mourrais en prison. Eh bien non, c'est grâce à Dieu. Presque 35 ans après, je suis toujours là. C'est presque un miracle.
Alors 40 ans après, évidemment, on tente toujours de faire la lumière sur cet attentat. Certains disent qu'il aurait été commandité par le KGB, par l'entremise des services secrets bulgares, mais on n'en a aucune preuve en réalité, et ce serait même une mauvaise piste pour d'autres spécialistes qui estiment que Mehmet Ali Aksa était plutôt un jeune Turc fanatisé.
Merci infiniment, Laure d'Autriche, pour cette histoire, ces archives et ce récit. Merci.
À bientôt.
Europe 1, Julien Bugier.
Dans quelques secondes, Julien Pierce pour le rappel de l'info et puis Émilie Mazoyer pour la musique avec son émission qui reçoit ce soir le chanteur belge Marca, qui n'est autre que le papa de la chanteuse Angèle. Et on sera évidemment au rendez-vous dans quelques secondes avec toi, Émilie. Merci de votre fidélité. Demain, 18h, c'est Wendy Bouchard qui sera aux manettes d'Europe Soir. On se retrouve, nous, lundi, évidemment, de bonne heure, de bonne humeur à 18h. Merci de votre fidélité.